ce sera notre privilège d'être des adorateurs pour toute l'éternité. Et dans le christianisme, il n'y a pas de différence entre la position des frères et des sœurs. Les deux ont la même position. Quant au rôle, dans ce temps, il y a une différence. Il y a plusieurs différences. Le fonctionnement est différent. Les rôles dans le contexte public sont différents, comme on voit dans 1 Corinthiens 11 et 1 Timothée 2, par exemple. Mais j'aimerais étudier avec vous quelques passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent de notre privilège et de notre responsabilité comme adorateur. Et je souligne donc que dans ce privilège et dans ces responsabilités, les sœurs ont la même place que les frères. D'abord, dans Romains 8, lisons versets 15 à 17, « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de rechef dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. » Il y a ici une présentation de notre privilège d'adorateurs, mais aussi de nos responsabilités. D'abord, le verset 15 souligne notre privilège d'être dans une nouvelle position, ayant reçu l'esprit d'adoption. Il y a plusieurs références à l'esprit dans Romains 8, et ce serait en soi une étude intéressante de voir ces 14 rôles du Saint-Esprit, une plénitude de rôles, de fonctions que l'Esprit a par rapport aux croyants. Ce que nous voyons au verset 14, par exemple, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Donc là, la nouvelle position, être des fils de Dieu, des fils par adoption, parce que nous sommes devenus fils de Dieu par le fait qu'il nous a adoptés comme fils, Éphésiens 1 confirme cela aussi. Seulement le Seigneur Jésus était le fils unique dans le sein du Père, et il n'avait pas besoin d'être adopté. Mais nous avons l'esprit d'adoption, Dieu nous a placés dans une relation avec lui pour être des fils pour lui-même, Éphésiens 1 verset 4. Et dans cette nouvelle position, nous avons l'Esprit comme notre conducteur. Mais en même temps, nous voyons le côté responsabilité, de notre responsabilité, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Donc, notre conduite pratique, notre obéissance, notre dépendance, ensemble avec ce privilège. Il est supposé que les fils de Dieu soient conduits par l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas automatiquement le cas. Nous devons être spirituels, une attitude spirituelle, comme chapitre 7 nous montre. Si nous sommes encore sous l'influence quelconque de la chair, nous ne pourrons pas être conduits par l'Esprit. Donc voilà cette nouvelle position ensemble avec cette responsabilité. Et dans ce contexte-là, nous avons le verset 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. » Là, nous voyons le contraste avec la situation sous la loi de Moïse, qui est comparée avec la servitude, parce que ça va ensemble avec ce que nous étions dans la chair. Et là, il y a la crainte. Je ne dis pas que nous n'avons pas la crainte de Dieu, ici c'est la crainte par rapport à cette servitude, comme les fils d'Israël en Égypte, dans la crainte de Pharaon, nous avons le respect pour Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quelque chose d'autre. Nous vivons maintenant dans une relation avec Dieu, dans ce respect par amour pour lui, c'est une autre forme de crainte, mais c'est tout à fait différent. Le verset 15 dit, « Vous avez reçu l'esprit d'adoption. » Donc nous voyons ici aussi une relation intime que nous avons avec l'esprit de Dieu. Nous avons une relation avec le Père, nous avons une relation intime avec le Seigneur Jésus, le Fils, il est notre bien-aimé, et nous voyons plusieurs côtés de cette relation développée dans l'Épître aux Romains, mais nous avons aussi cette relation avec l'Esprit. Mais l'emphase dans ce verset est sur la relation avec le Père. Nous avons vu dans Jean 20 cette nouvelle relation, nouvelle association par rapport à la nouvelle création. Et dans ce contexte-là, nous avons reçu l'Esprit, pas seulement comme vie de résurrection, comme on l'a vu à la fin de Jean 20, mais aussi l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et c'est par l'Esprit que nous pouvons répondre à la pensée de Dieu. Dieu donne toutes les ressources nécessaires pour que nous puissions fonctionner comme ses fils. Et ses fils lui donnent une réponse dans l'adoration, disant « Abba, Père ». C'est vraiment tout nouveau. Le judaïsme n'a pas connu cela. Et même les croyants, après l'enlèvement de l'Église, n'auront pas ce même privilège que nous avons maintenant. Et je mets l'emphase sur la question d'une réponse. Dieu attend une réponse de notre part. Il cherche une réponse. On a vu cela dans Jean 4, dans Jean 12 aussi, et aussi dans Jean 20. Et maintenant, c'est quelque chose que Dieu attend de nous comme croyants aujourd'hui. Pour cela, il nous a donné l'Esprit qui nous soutient, qui lui-même rend témoignage, verset 16, avec notre esprit. Donc, il y a un lien intime avec l'Esprit de Dieu. Il nous guide, mais il produit aussi en nous un état qui est conforme aux pensées de Dieu, comme étant ses fils par adoption. Et ainsi, l'Esprit opère en nous et rend témoignage avec notre esprit. C'est remarquable comment l'Esprit est identifié avec le croyant dans ce chapitre Romains 8. Et il donne un témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ici, ce n'est pas fils de Dieu, mais enfants de Dieu, parce que nous sommes dans le désert, ce monde est un désert, et Dieu nous a laissés dans ce monde pour le représenter. Donc comme enfants de Dieu, nous représentons Dieu dans ce monde, dans ce présent siècle. Comme fils de Dieu, nous donnons une réponse à Dieu, à l'amour de Dieu. Comme fils, nous sommes pour lui-même, pour cette relation d'intimité dans la famille de Dieu. Comme enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde, nous représentons Dieu. Et même dans Apocalypse 20 et 22, nous voyons comment nous serons des serviteurs pour toute l'éternité. Comme enfants de Dieu, nous aurons donc un rôle à jouer par rapport à la création, par rapport à l'univers. Comme fils de Dieu, nous sommes vus dans l'intimité, dans cette relation d'intimité, dans la famille de Dieu, qui va ensemble avec ce libre accès que nous avons maintenant, comme nous verrons plus tard. Comme fils, nous sommes aussi héritiers, verset 17, et comme enfants, évidemment, il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Par cette relation d'enfants, nous avons aussi le privilège d'être héritiers, héritiers de Dieu. Donc Dieu nous donne tout ce qu'il a. Tout ce que Dieu a, il met à notre disposition. C'est la pensée merveilleuse. Mais nous avons tout cela avec le Seigneur Jésus, co-héritier de Christ. comme nous lisons au verset 32, celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas donc aussi librement de toutes choses avec lui? Dieu nous a donné toutes choses comme étant ses héritiers, mais nous avons toutes choses ensemble avec Christ. Ainsi, nous sommes co-héritiers de Christ, unis avec lui. Mais là, c'est donc notre privilège, mais ça va tout de suite ensemble avec notre responsabilité. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Donc, les privilèges que nous avons ne peuvent pas être détachés de la responsabilité qui va avec, si du moins nous souffrons avec lui. Nous sommes dans un monde où il est rejeté, et ainsi, comme ses représentants, les enfants de Dieu, représentants de Dieu, comme les représentants du Seigneur Jésus, comme étant ses disciples maintenant, nous souffrons avec lui. Nous avons une part avec lui, mais nous avons aussi cette responsabilité quant à notre place dans ce monde, de souffrir avec lui. Ces éléments-là sont développés dans 1 Pierre. Mais Paul parle aussi des souffrances, au verset 18, c'est pour le temps présent, mais il dit, elles ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui va nous être révélée. Si on prend Romains 8 dans son ensemble, on aurait beaucoup de sujets de méditation, mais aussi beaucoup de raisons pour adorer. Mais je veux seulement référer maintenant à ce passage qu'on a au verset 29 et 30, car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés. Donc on voit ici la préconnaissance de Dieu, et ceux qu'il a préconnus, il a prédestinés, mis à part dans son conseil, pour être conforme à l'image de son Fils. Ça, c'est le but ultime, à être conforme à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Nous avons vu cette relation déjà dans Jean 20, mes frères, et ici nous avons cette pensée que Dieu avait arrangé cela déjà dans son conseil, dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre beaucoup de frères. Et verset 30 explique en détail ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Prédestinés, c'est la grâce souveraine de Dieu avant la fondation du monde. Appelés, c'est ce qu'il a fait dans le temps. Par sa grâce, il nous a appelés. Ensuite, il les a aussi justifiés. C'est sur la base de l'œuvre accomplie de Christ. Sans sa mort, sa résurrection, ce serait impossible. Mais cette justification est notre part maintenant. Et dans ce contexte-là, Dieu nous voit déjà comme glorifiés. Dans la relation avec Christ, qui est maintenant dans la gloire, Dieu nous voit déjà glorifiés. C'est dans son conseil. Quoi que nous soyons encore dans ce monde, sur cette terre, et nous n'avons pas cette pensée que nous sommes déjà glorifiés. C'est vraiment par rapport au conseil de Dieu, au propos de Dieu, par rapport à Christ qui est maintenant dans la gloire. Mais nous voyons au verset 28, nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le désert, et les voies de Dieu avec nous font que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, on est ici à l'école de Dieu, il nous forme pour lui-même, et ainsi les voies de Dieu vont aboutir à l'accomplissement du conseil de Dieu. Versets 28 et 29 vont ainsi ensemble. D'un côté, les voies de Dieu dans le temps avec nous, de notre côté, le conseil de Dieu qu'il a eu dès avant la fondation du monde. Et pour le sujet d'adoration, c'est quelque chose à réfléchir. Nous sommes maintenant des fils, ensemble avec le Fils, et nous avons donc une nouvelle position pour pouvoir adorer le Père. Verset 31. Que dirons-nous donc à ces choses? Il y a 7 questions que Paul pose ici. Et ça va bien ensemble avec la pensée du verset 28, les voies de Dieu avec nous. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette nouvelle position que nous avons reçue montre que Dieu est pour nous. Mais ce que je veux dire maintenant, dans les voies de Dieu, il nous prépare pour jouir de cette nouvelle position, pour pouvoir répondre au cœur de Dieu. Et ainsi, il aime que nous puissions réaliser que Dieu est pour nous, qui sera contre nous. La preuve que Dieu est pour nous, verset 32, celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Quel sujet d'adoration, quelle pensée que le Père a donné son propre Fils, qui ne l'a pas épargné. Il n'a pas diminué le jugement que le Seigneur Jésus a subi à notre place, malgré le fait qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu. Son propre Fils, c'est pour souligner cette relation d'intimité et d'amour entre le Père et le Fils. Il n'a pas épargné, mais il l'a livré pour nous tous. C'est l'acte de la grâce souveraine de Dieu, l'acte d'amour de Dieu. Il est vrai, le Seigneur Jésus s'est livré lui-même. Il est vrai, Judas l'a livré entre les mains des hommes. Mais ici, c'est Dieu qui a livré son propre Fils. Comment ne nous fera-t-il pas donc aussi librement de toutes choses avec lui? Et ainsi, Dieu nous prépare pour être des adorateurs. On a reçu tout. On a vu cela dans Jean 4. Dieu, le grand donateur, il donne tout. Et librement. Mais pour jouir de ces choses avec lui. Donc, dans la communion avec Dieu lui-même, le Père, dans la communion avec le Seigneur Jésus. Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? C'est une autre chose importante. Pour pouvoir jouir de la relation avec Dieu, pour pouvoir donner une réponse dans l'adoration, nous devons réaliser dans nos cœurs que notre nouvelle position est en dehors de chaque accusation possible. Donc Satan est l'accusateur des frères. Mais quant à notre nouvelle position, il ne trouvera aucune accusation. Si Satan trouve une accusation contre nous, c'est par rapport à notre pratique, malheureusement. Mais quant à notre nouvelle position comme adorateur, comme fils de Dieu, il n'y a aucune accusation possible. Verset 34, c'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? L'Épître aux Romains met beaucoup d'emphase sur notre position comme étant justifié devant Dieu. Dieu nous a justifiés. Qui peut donc condamner? Ces remarques sont importantes pour nous aider à donner une réponse dans l'adoration. Plus qu'on réalise cette position merveilleuse que Dieu nous a donnée, comme étant ses propres fils, plus on sera capable de pouvoir adorer le Père et le Fils. Et je répète, c'est exactement la même pour les frères et pour les sœurs. C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu. Cette nouvelle position que Dieu nous a donnée est sur la base de la mort et de la résurrection du Christ et sur la base du fait qu'il est maintenant à la droite de Dieu. Il a été élevé et exalté, il se trouve là à la droite de Dieu et de là il a envoyé son esprit qui habite maintenant en nous. Donc cette nouvelle position est par rapport à un Christ mort, ressuscité et exalté à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il intercède pour nous. Il est là pour nous soutenir. L'ennemi est là pour nous accuser. Et on a vu déjà, il ne peut pas nous accuser quant à notre position. Il peut nous accuser peut-être par rapport à notre marche. Mais là, nous avons le Seigneur qui intercède pour nous. C'est le remède que Dieu donne pour nous quant à ces attaques de l'ennemi. Donc il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours, si on a manqué, si on a péché, il faut confesser ces choses et abandonner ces choses. Mais là, il faut se réjouir dans le Seigneur Jésus et dans cette relation que nous avons maintenant avec Dieu, mais dans ses fils, et avec le Seigneur Jésus, avec qui nous pouvons partager tout maintenant. Toute la joie, tous les biens qui sont dans le ciel et dans le cœur de Dieu, nous avons maintenant avec le Seigneur Jésus. Quelle raison pour pouvoir adorer? et il nous soutient par son intercession, il nous soutient pour cela. Et lorsqu'on voit autour de nous, verset 35, qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation ou détresse ou persécution ou famine ou nudité ou péril ou épée, encore cette question ici, cette possibilité de trouble, mais ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour du Christ. Donc j'ai déjà mentionné, nous avons des ressources merveilleuses dans l'amour du Christ. Et c'est cette chose que Paul mentionne ici, des choses très réelles, tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, péril, épée, les choses que Dieu permet dans son gouvernement, dans ses voies, verset 28, ces choses ne peuvent nous séparer de l'amour du Christ. L'amour du Christ est une belle expression qu'on trouve encore dans 2 Corinthiens 5 et pense aussi dans Éphésiens. C'est seulement trois fois dans le Nouveau Testament. Verset 36, selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort toujours. Nous avons été estimés comme des brebis tuées. Ici, dans ce contexte difficile, la persécution à cause du nom de Christ, par amour pour lui, il y a en même temps cette joie de la communion avec lui. C'est un peu comme Paul dit dans Philippiens 3, verset 10, pour le connaître lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Donc, ces expériences qu'il décrit ici au verset 35 et 36 de Romains 8 aident en réalité, nous aident à fonctionner comme des adorateurs. Et ça va ensemble avec cette conviction du verset 37. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'emphase est encore sur celui qui nous a aimés. Nous sommes entièrement dépendants de lui. Mais la pensée de Dieu est que nous soyons des vainqueurs, même des super vainqueurs, plus que vainqueurs. Satan veut nous faire tomber. Et souvent nous manquons. Mais le Seigneur veut nous encourager, il veut nous aider pour être des vainqueurs et même des super vainqueurs. Donc, dans le contexte actuel, des choses difficiles, des choses que Dieu permet, et nous avons vu, verset 28, toutes choses sont sous son contrôle. Il fait coopérer toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ce contexte-là, Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Et comme vainqueurs, nous pouvons adorer le Père et le Fils par le Saint-Esprit qui nous a donné. Si nous ne sommes pas pratiquement des vainqueurs, nous ne fonctionnons pas comme des adorateurs. On peut faire une liturgie, on peut faire des formes, on peut imiter, mais seulement aidé par l'Esprit, comme on a vu au verset 15, 16, 17, nous pouvons donner une réponse à l'amour de Dieu, à l'amour de Christ, comme le vrai vainqueur. Verset 38, on voit cette conviction que Paul a, je suis assuré ou convaincu. Il a cette conviction en lui-même, par la foi évidemment. Ni mort, il mentionne maintenant 10 choses, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucun autre créateur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Cet amour de Dieu est intimement lié à la personne de Christ. Le Christ, c'est l'homme que Dieu a oint, l'homme de son bon plaisir, qui est l'humble homme de Nazareth, Jésus. Mais il est aussi notre Seigneur. Nous nous soumettons à son autorité. Et c'est quelquefois, cette expression se répète dans Romains, Christ, Jésus, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans cette relation avec lui, nous pouvons être des vainqueurs. Tout dépend de lui. Par celui qui nous a aimés, nous pouvons être des vainqueurs. Comme Paul dit dans Philippiens 4, je peux toutes choses par celui ou en celui qui me fortifie. Ainsi, le Seigneur Jésus est le vrai Boaz. Hein? Lui est notre force. Et c'est lui qui nous fortifie, qui nous donne cette victoire. Et dans ce contexte-là, nous pouvons être des adorateurs. Et c'est un sommet de l'épître romain. On a ici, pour ainsi dire, un climax. Et ce climax va ensemble avec la fin de Romains 11. À la fin de ce traité sur les voies de Dieu, Romains 11, Paul s'exclame en adoration, verset 32, « Car Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. » Ça, c'est encore donc les voies de Dieu. Verset 33, « Aux profondeurs des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu, car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. » Si nous voyons donc vraiment un exemple d'adoration, et nous pouvons suivre Paul dans cet exemple, mais c'est par rapport aux voies de Dieu, ces voies sont introuvables. Et ici, nous pouvons adorer Dieu par rapport à ses voies, dans l'ensemble avec Romains 8, verset 28. Mais on a dit déjà, les voies de Dieu accomplissent son conseil. Et le conseil qu'on voit dans Éphésiens 1, par exemple, est un conseil qui est réalisé maintenant par les voies de Dieu, afin que nous puissions vraiment adorer, comme on a vu aussi dans Romains 8, verset 29 et 30, cette nouvelle position qui nous donne selon son conseil. Et ainsi, on voit dans Éphésiens 3 cette exclamation en adoration de Paul par rapport au conseil de Dieu. Je vais juste mentionner cela, peut-être on va revenir à l'épître aux Éphésiens plus tard, mais dans Romains 11, l'exclamation, l'adoration est par rapport aux voies de Dieu, et dans Éphésiens 3 à la fin, l'adoration de Paul est par rapport au conseil de Dieu. Et ainsi, nous pouvons entrer dans ces choses pour pouvoir être des adorateurs. J'aimerais maintenant mentionner un point que j'ai oublié en parlant de Jean 20. Dans Jean 20, nous avons vu Marie de Magdala, et comme quelqu'un qui a donné une réponse à l'amour du Seigneur Jésus. Nous avons vu cette expression dans le psaume 22, qui nous touche et qui nous encourage de pouvoir suivre l'exemple de Marie comme une biche de l'aurore. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir encore 6 autres femmes dans Jean qui jouent un rôle. Jean 2, nous avons la mère du Seigneur Jésus, Marie, et elle donne toute la place au Seigneur Jésus. Elle a appris cela. Et on voit, elle était invitée, mais graduellement, on voit que le Seigneur Jésus prend sa place comme il convient. Et Marie dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est un encouragement d'avoir cette attitude de Marie. C'est un encouragement pour nos sœurs, c'est un encouragement pour nous, comme frères. Dans Jean 4, nous avons vu la femme samaritaine, la deuxième femme. Dans Jean 8, nous avons cette femme pécheresse, et le Seigneur l'a mis en liberté, vraiment. Et dans ce chapitre 8, il parle beaucoup de la liberté. Il va ensemble avec la lumière. La liberté et la lumière vont ensemble, dans Romains 8. Là, le nom de la femme n'est pas mentionné, mais elle donne une présentation, une illustration de la place que nous avons comme croyants. Autrefois dans le péché, maintenant libérés, nous pouvons répondre à l'amour de Dieu, à l'amour du Seigneur Jésus. Et la quatrième femme que nous avons vue, c'est Marthe, dans Jean 11 et 12, aussi dans Luc 10. La cinquième femme, c'est Marie de Béthanie, dans Jean 12, et cette belle réponse qu'elle a donnée au Seigneur Jésus. La sixième femme, c'est dans Jean 19, elle était avec Marie, la mère du Seigneur Jésus, auprès de la croix. Elle était mentionnée comme étant la femme de Clopas. Peut-être c'est Clopas qui était plus tard un frère dirigeant qui a suivi Jacques après sa mort. Mais ça, c'est la sixième femme qui est mentionnée, et Marie de Magdala, la septième, qui a donné cette belle réponse, comme nous avons vu dans Jean 20.
Encore une autre remarque par rapport à notre position de fils. Je réfère à Jean 8, verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours, le fils y demeure pour toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc cette nouvelle position de fils, comme nous avons vu dans Romains 8, qui va ensemble avec l'Esprit Saint qui nous a donné cette position, et nous avons reçu l'esprit d'adoption. On peut aussi penser au fait que nous avons maintenant ce privilège d'être des fils, et peut-être l'emphase est sur notre esprit, mais de toute façon, dans Jean 8, nous voyons le Seigneur Jésus comme ce grand libérateur, et comme la femme accusée est devenue un adorateur, une adoratrice, nous pouvons devenir adorateurs comme étant libérés par le Fils lui-même, ayant reçu cet esprit d'adoption. Et dans cette liberté, dans la joie d'être libre, nous pouvons adorer. Ça va bien ensemble avec Romains 8, parce que dans Romains 7, nous voyons cette servitude du péché, Romains 8, l'affranchissement, et ici, dans Jean 8, nous voyons que le Fils nous a affranchis. Si l'Esprit de Dieu fait quelque chose, c'est toujours ensemble avec le Fils. Le Fils a envoyé son Esprit, et l'Esprit représente le Seigneur Jésus qui est maintenant dans la gloire, et il fait les choses selon lui et pour lui. Donc ces sept femmes de l'Évangile de Jean sont des modèles, des illustrations pour nous, pour l'adoration. Et par rapport à Jean 20, j'aimerais encore souligner les grands contrastes. On a vu l'incertitude au début de Jean 20, qui était caractéristique pour tous, pour Marie, pour Pierre, pour Jean, et cette incertitude a été changée dans une certitude. Et ayant cette certitude, plus tard, les disciples, les apôtres étaient prêts pour souffrir pour le Seigneur Jésus. Sans cette certitude, ils n'auraient jamais pu souffrir. Et j'ajouterai aussi, sans cette certitude, ils ne pourraient pas fonctionner comme adorateurs. Et c'est pour nous la même chose. Le deuxième point dans Jean 20 encore, Marie avait beaucoup de malentendus. Le Seigneur l'a instruit et elle a reçu ses enseignements pour ensuite comprendre. Pour nous aussi, nous sommes instruits par l'Esprit de Dieu maintenant, mais aussi par Christ dans la gloire. Il nous enseigne par son Esprit pour que nous puissions comprendre notre nouvelle position. Et ainsi, nous pouvons adorer. Au lieu de la crainte, on voit avec les disciples réunis le soir, les 10 disciples qui étaient ensemble, on voit que cette crainte est devenue de l'allégresse. En voyant que Seigneur Jésus était heureux. Un autre contraste. Ensuite, on a vu aussi comment leur manque de foi a été changé en foi. Et c'est surtout par rapport à Thomas. Et à la fin de Jean 20, nous avons vu comment cette foi devrait nous caractériser, nous qui vivons dans le temps où nous ne voyons pas le Seigneur Jésus. Mais par la foi, nous l'avons promis. Et nous l'aimons par la foi, comme on a vu aussi dans 1 Pierre 1, verset 8. C'est la foi qui est caractéristique pour ce temps où nous vivons. Christ dans la gloire, l'Esprit de Dieu sur la terre, et tout par la foi. Tout se réalise maintenant par la foi. Nous avons la joie de ces choses par la foi. Nous entrons dans ces choses par la foi. Nous pouvons donner une réponse à l'amour de Dieu par la foi. La foi est essentielle dans tout cela. Et ainsi, les paroles de l'Épître aux Galates. Dans l'Épître aux Galates, nous voyons une attaque subtile de l'ennemi pour enlever cette foi, pour que les croyants retournent au judaïsme ou à un mélange de judaïsme avec leur propre religion. Non. Avec un tel mélange, il n'y a pas d'adoration. Et Paul les corrige. Mais juste un beau verset pour commencer, dans Galates 1, verset 15, où Paul parle de sa propre expérience. « Quand il plut à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonçasse parmi les nations. » Quelle révélation! Dieu n'a pas seulement révélé son Fils à l'apôtre, mais il l'a révélé aussi en lui. C'est une formation qui a lieu dans l'apôtre Paul. Cette formation a lieu aussi en nous, les croyants, aujourd'hui, pour que nous puissions annoncer Christ, pour pouvoir le présenter ici, dans le monde où nous sommes encore laissés. Et ainsi, nous pouvons fonctionner comme des adorateurs. Nous voyons l'attaque subtile dans Galates 2, c'est un récit historique des choses qui se sont passées à Antioche, et comment même l'apôtre Pierre, qui avait reçu ses visions dans Acte 10, qui a compris cette liberté en Christ, comment l'ennemi a réussi à le faire dévier. Et même Barnabas, qui est toujours un homme plein de grâce, et appelé fils de consolation, était impliqué dans cette déviation. L'apôtre a pris une position pour maintenir la vérité, pour défendre la vérité, et cette défense est encore nécessaire aujourd'hui. Il a conclu cette défense en disant au verset 20, chapitre 2, « Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est la base pour l'adoration. Sans l'expérience de ces choses, il n'y aura pas d'adoration. Et voilà, l'ennemi veut enlever cette expérience pratique et cette réalisation pratique de la vérité. Il veut réintroduire le judaïsme ou un mélange, comme il a essayé avec les Galates. Et dans chapitre 3, Paul revient à la grâce de Dieu comme manifestée à Abraham. Et Abraham était le père de tous les croyants. La position qu'Abraham a connue, une position de liberté, pour pouvoir donner une réponse à Dieu, pour fonctionner comme adorateur, cette position que nous devrions avoir aussi. Et aussi les Galates devraient connaître cette position en réalité. Chapitre 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous tous vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes le Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham héritée selon la promesse. C'est la position que nous avons selon les pensées pour pouvoir être des adorateurs. Et Abraham a connu cette position même avant la circoncision. Ici, dans le contexte de l'Épître aux Galates, les faux docteurs voulaient que les croyants soient circoncis. Là, Paul montre que c'était un mélange de la grâce avec la loi. On ne peut pas mélanger ces deux systèmes. C'est impossible. Et si on l'essaie, il y aura une corruption. Et dans ce contexte d'une corruption, il n'y aura pas d'adoration. Voilà, Paul revient à son thème, chapitre 4. Je dis, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'à l'époque fixée par le Père. Ainsi aussi nous, je parle maintenant des Juifs, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde. Les éléments du monde, c'est une expression que j'utilise aussi dans Colossiens, et sa preuve des éléments de base, des principes selon lesquels ce monde est organisé. Ce monde est sous le contrôle du prince de ce monde, sous le contrôle du dieu de ce siècle. Et on voit ici donc, verset 3, que même les juifs étant sous la loi, ils étaient sous les éléments du monde. Parce que ici, c'est leur position dans la chair qui est adressée, malgré le fait qu'ils avaient ce privilège d'avoir la loi. Ensuite, dans leur histoire, nous voyons aussi qu'ils ont utilisé la loi de Dieu pour leur propre gloire. C'est encore un élément de la chair, et dans ce contexte-là, ils étaient asservis sous les éléments du monde. Et pour les Colossiens, dans un autre contexte, même le paganisme, c'est un autre aspect des éléments du monde. Donc je dis, la loi comme telle, comme Dieu l'a donnée, n'est pas un élément du monde. Mais la condition dans laquelle les Juifs se trouvaient était comme asservie sous les éléments du monde. Même utilisant la loi, comme on voit avec tous les écrits qu'ils ont séparés dans Mishnah, Talmud, c'est clair que ce sont seulement des éléments du monde. Mélange les choses de Dieu avec les choses du Dieu du siècle. Et la loi les a gardés dans un sens, la séparation, comme on voit déjà dans Exode 19 et 20, mais au verset 4, Galates 4, verset 4, « Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba Père », de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils, et si fils héritier aussi par Dieu. » Mais alors, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu. Mais maintenant, ayant connu Dieu, mais plutôt ayant été connu de Dieu, comment retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore de recherche être asservis? Vous observez des jours et des mois et des temps et des années. Je crains quant à vous que peut-être je n'ai travaillé en vain pour vous. C'est bien solennel ce qu'on a ici. Les Juifs, dans leur histoire, se sont retournés vers l'idolâtrie. À cause de cela, Dieu les a châtiés, disciplinés, distribués en dispersion des deux tribus dans la captivité babylonienne. Seulement un petit résidu est retourné à Jérusalem, au pays de la promesse. On voit des détails dans Ezra, dans Néhémie. Mais même là, plus tard, ils sont retournés d'une autre façon aux éléments du monde. Pas l'idolâtrie, comme auparavant, mais la façon dans laquelle ils ont utilisé les choses de Dieu, c'était vraiment encore les éléments du monde. Le Fils de Dieu est venu, comme on voit au verset 4, dans l'accomplissement du temps. Dieu a envoyé son Fils. Et la façon dans laquelle il est venu dans ce monde, né de femme, né sous la loi, souligne comment il s'est identifié avec la situation dans laquelle son peuple se trouvait. Mais le but était, verset 5, pour les racheter, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Pour les mettre encore sous la loi? Non. Afin que nous reçussions l'adoption. Donc, si on veut parler d'une loi, ce serait une nouvelle loi, comme Paul développe dans Galates 6. La nouvelle création, laquelle nous avons parlé dans Jean 20, va ensemble avec ce qu'on trouve dans Galates 6, une nouvelle création, verset 15, car ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. Et à l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu. Les juifs croyants dans ce temps-là, les juifs chrétiens, c'était le vrai Israël de Dieu. Ensemble avec les croyants d'entre les nations, ils connaissaient maintenant cette paix et cette miséricorde en marchant selon cette nouvelle règle de la nouvelle création. Au lieu d'être sous la loi de Moïse, ils sont sous une nouvelle règle, une nouvelle loi. C'est la loi de Christ, chapitre 6, verset 2. Portez les charges les uns des autres et ainsi accomplissez la loi du Christ. Donc, la loi de Moïse ne s'applique plus aux chrétiens, juifs croyants ou croyants parmi les nations, mais il est passé sous une autre loi, une nouvelle loi, la loi du Christ. Une loi qui est beaucoup, est d'un ordre tout à fait différent, appartient à cette nouvelle création, va ensemble avec cette nouvelle création. une règle qui appartient à cette nouvelle création. Et on ne peut pas mélanger ces deux systèmes. Comme j'ai dit déjà, la loi et la grâce ne se mélangent pas. Si on mélange les deux, il n'y aura plus d'adoration. Voilà les efforts de l'ennemi dans Galate pour justement faire cela, pour mélanger les deux. Pour revenir au chapitre 4, nous avons la nouvelle position qui rentre avec cette nouvelle création. Où nous voyons le Fils et par qui nous avons reçu l'adoption. Nous avons déjà vu l'esprit d'adoption dans Romains 8. Maintenant, nous voyons que Dieu nous donne une nouvelle position d'être adopté comme fils, ensemble avec son fils. Et ainsi, verset 6 du chapitre 4, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils. » Donc, il y a encore ce lien merveilleux entre le fils et l'esprit, entre le fils et nous, par son esprit, et la réponse que nous pouvons donner dans l'adoration, ayant l'esprit de son fils dans nos cœurs, criant « Abba Père ». Ça, c'est l'adoration. Donc, c'est la position que Dieu nous donne selon son conseil, selon son propos, la vraie liberté qu'il nous donne pour être ici, pour son bon plaisir, comme ses fils, et ainsi nous pouvons donner une réponse dans l'adoration. Abba, Père. C'est remarquable que le Seigneur Jésus lui-même a prié dans le jardin de Gethsémané, dans Marc 14, Abba, Père. Là, il était dans le combat. Et ici, c'est un autre contexte. Mais nous avons maintenant le même privilège. Nous pouvons nous adresser au Père en disant « Abba, Papa, Daddy ». Et ainsi, nous avons cette intimité, cette confiance, en contraste avec le légalisme, le formalisme, qui va ensemble avec ce système que les faux docteurs voulaient introduire au niveau des chrétiens. Et ce danger, c'est toujours là. Chaque génération doit apprendre exactement le même principe pour pouvoir jouir vraiment de cette nouvelle règle qui va ensemble avec la nouvelle création, qui va ensemble avec cette nouvelle position de fils, pour pouvoir répondre au cœur du Père, pour pouvoir répondre aussi à l'amour du Seigneur Jésus et à Dieu qui a envoyé son propre fils.
La liberté chrétienne va ensemble avec la liberté de l'esprit, et c'est bien résumé dans chapitre 5, premier verset, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. C'est donc cette position dans laquelle Christ nous a placés, une position de liberté. Ainsi, nous avons été justifiés devant Dieu. C'est la base de cette liberté. Et la liberté est aussi la base de la relation avec Dieu. Et c'est devenu le standard pour notre vie. C'est pour ça que Paul dit, tenez-vous donc ferme. Chaque privilège vient avec une responsabilité. Tenez-vous donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Satan veut toujours corrompre les choses de Dieu et nous faire dévier pour qu'il n'y ait pas de fruit pour Dieu. Ainsi, dans l'Épître aux Galates, nous voyons ces deux systèmes. Un système qui va ensemble avec l'Esprit de Dieu, avec cette liberté, qui s'est représenté ou illustré d'une façon allégorique dans Sarah, la femme libre, tandis que le système de la loi, qui va ensemble avec la chair, qui va ensemble avec l'esclavage, qui ne peut pas produire quoi que ce soit pour Dieu, donc il n'y a pas de fruit pour Dieu vraiment avec ce système-là. On voit ces deux placés l'un opposé de l'autre. Il y a sept contrastes que Paul décrit dans cette partie de l'Épître, Galates 4, verset 19 à 31. Mais pas seulement cela, il parle aussi d'un exercice profond qu'il avait, comme il exprime au verset 19, « Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. » Au début de la lettre, nous avons vu comment Dieu a formé Christ dans l'apôtre Paul, ça c'est l'intervention de la grâce souveraine de Dieu. Maintenant, nous voyons aussi le côté de l'homme. Ça prend un exercice de notre part. Et on voit ici Paul comme un père spirituel, comme une mère spirituelle qui travaille. Même comme une mère qui va donner la vie à son enfant, qui va enfanter, elle est en travail, en labeur. Pour quel but? Afin que Christ soit formé en vous. Et cette formation est nécessaire pour être de vrais adorateurs. Dans chapitre 5, nous voyons comment ces deux systèmes sont placés l'un opposé à l'opposé de l'autre, et je vais juste souligner un verset, verset 13, « Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair. Mais par amour, servez-vous l'un l'autre. » On sait que Satan est très rusé. Il peut même utiliser la liberté comme une occasion pour la chair. Ce ne serait pas correct non plus. Donc nous voyons comment nous devons être attentifs pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Verset 16, « Mais je dis, marchez par l'Esprit, dans la puissance de l'Esprit, sous le contrôle de l'Esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. » Il y a la nouvelle nature, il y a un nouveau guide, opposé à la vieille nature avec le vieux guide de la loi. Ensuite, nous avons les œuvres de la chair opposées aux fruits de l'esprit. C'est remarquable que le fruit de l'esprit est un, mais c'est un fruit composé de 9 aspects. Et ce fruit, dans son ensemble, représente Christ. Donc, dans d'autres mots, verset 22 du chapitre 5, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance ou le contrôle de soi. C'est un fruit composé de 9 aspects. Ces 9 aspects représentent Christ en nous, comme on a vu dans chapitre 4, verset 19, jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. L'Esprit de Dieu opère cela. Et le fruit de l'Esprit, c'est Christ reproduit dans le croyant. Et ainsi il y aura de l'adoration, ainsi il y aura du fruit pour Dieu. Verset 24, « Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » C'est ce défi qui se place devant nous. Pour pouvoir continuellement être sous le contrôle de l'Esprit. Et ainsi, dans ce passage, il y a beaucoup d'emphase sur l'Esprit. Dans chapitre 5, verset 16, jusqu'au verset 25, il y a 7 fois une référence à l'Esprit. C'est l'Esprit qui produit Christ en nous. Chapitre 6, nous avons déjà mentionné un point, mais là j'aimerais maintenant souligner comment il y a comme une barrière entre le monde et le croyant. Les deux ne peuvent jamais aller ensemble. La grâce et la chair ne peuvent jamais aller ensemble. Si on les met ensemble, la grâce ne sera plus la grâce. Ce sera un mélange. C'est ça que l'ennemi veut. Et le résultat, graduellement, sera qu'il n'y aura pas de vraie adoration pour Dieu, pas de fruit pour Dieu. Et il met beaucoup d'emphase sur notre responsabilité, chapitre 6, verset 7, « Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme sème, cela aussi il le maçonnera. » Nous sommes responsables pour ce que nous faisons. Nous sommes responsables pour l'intention que nous avons choisie pour notre vie, pour les choix. Est-ce que nous avons toujours en vue les intérêts de Dieu, les intérêts de Christ? Verset 8, car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption. C'est très solennel. On voit cela dans la vie de Jacob et dans d'autres cas dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver de telles illustrations. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Ça ne veut pas dire que nous pouvons acquérir la vie éternelle de nos propres efforts, mais ayant reçu la vie éternelle par la foi, nous avons le choix de nous concentrer sur les choses du Seigneur, de promouvoir ses intérêts, ou bien de promouvoir les intérêts de la chair. C'est ça le choix que nous devons toujours faire. C'est lui qui sème pour l'Esprit. Donc, si notre choix est de nous identifier avec l'Esprit, et avec l'Esprit, et avec le fruit de l'Esprit, fruit dans la gloire, qui veut se reproduire en nous, là il y aura la jouissance de la vie éternelle. Ce n'est pas qu'on va recevoir à ce moment la vie éternelle, on l'a reçue déjà, mais on va jouir davantage de la vie éternelle. Et ainsi, nous serons capables d'être de vrais adorateurs. Évidemment, ces actions vont ensemble avec faire du bien, comme verset 3 le montre, verset 4 et aussi le verset 9 et 10. Le service de Dieu va toujours ensemble avec prendre soin des intérêts des tiens, des siens ici-bas. La barrière de laquelle je parlais tantôt est formée par la croix, verset 14. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. Il y a, dans les pensées de Dieu, pas de possibilité de mélanger les deux. Il y a une frontière définitive. Et de réaliser qu'on est crucifié au monde, c'est plus dur à comprendre et à réaliser. Et c'est donc un exercice plus profond. On réalise par la foi que le monde est crucifié pour moi, mais que moi aussi, je suis crucifié au monde. Verset 15, « Ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. » On a vu la nouvelle création déjà dans Jean 20, et Christ est le chef de la nouvelle création. Dans Galates 6, nous avons la règle de la nouvelle création, ou la loi, si on veut utiliser ce mot-là, de la nouvelle création. Si on n'est pas sous la loi de Moïse, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sous aucune autre loi, nous sommes sous la loi de Christ. Chapitre 6, verset 2. Et ainsi, la nouvelle création est caractérisée par une règle, verset 16, à l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle. Paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu. Nous voyons ici aussi une référence aux croyants parmi les Juifs, l'Israël de Dieu. Et ainsi, les croyants qui sont d'entre les nations, ensemble avec les croyants d'entre les Juifs, marchons ensemble selon cette même règle. Pas selon la loi de Moïse, mais selon cette nouvelle règle de la création. ça va ensemble avec la nouvelle relation que Dieu a établie, les nouvelles relations que Dieu a établies par rapport à la nouvelle création. On voit cela dans 2 Corinthiens 5. Même si nous avons, Paul dit, si nous avions connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Dans 2 Corinthiens 5, verset 16, en sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Ici, nous avons de nouvelles relations avec la nouvelle création. Une nouvelle règle, Galates 6, Éphésiens 2, la nouvelle création ensemble avec le nouvel homme. Éphésiens 4, la nouvelle création est caractérisée par une nouvelle moralité, en contraste avec les mœurs de ce monde. Un grand contraste qu'on trouve dans Éphésiens 4, versets 17 à 24. Et ensuite, dans Colossiens 3, nous avons encore une fois la nouvelle création qui est caractérisée par une nouvelle connaissance. Et ces choses sont importantes parce qu'en jouissant de cette nouvelle position que Dieu nous a donnée dans la nouvelle création, nous pouvons produire des fruits pour Dieu dans l'adoration. Et là, je répète, les sœurs et les frères ont la même position et les mêmes privilèges. Et nous prions le Seigneur que nous puissions fonctionner ainsi pour pouvoir du fruit pour lui. Dans plusieurs épîtres dans le Nouveau Testament, nous voyons des attaques différentes de l'ennemi pour faire dévier les croyants.